10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
C'est l'islam au présent sur Beurre FM. Bonjour, bienvenue, très content de vous retrouver comme tous les week-ends. Bonjour Imam Abdelali.
Bonjour Philippe. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Et regardez, là je me retourne. Qu'est-ce qui vous fait rire?
Ouais, je vais dire la vérité.
Non.
Ta coupe de cheveux, parce que tu as mis ton casque et en mettant ton casque, ça a tiré sur les cheveux, ça a fait une coupe un peu
à la one again.
À la one again, voilà. Ça a fait rire un petit peu. Désolé.
Bon, voilà. J'ai remis. C'est bon là.
Il me parfait. Dit. Là, c'est très.
Je rassure, c'est mieux. C'est de la radio qu'on fait.
Là, c'est bien. Personne nous voit.
On est tous les deux en pyjama.
On est venu en
pyjama, en charentaise.
Entre nous, en famille.
Bon, on parlera du Ramadan tout à l'heure. Sofiane sera avec nous. Il nous parlera d'un gala de soutien qui a lieu la semaine prochaine, le 8 mai.
Inch'Allah,
on va en profiter. Il y a beaucoup de jours fériés cette semaine, donc on peut sortir. Mais on commence comme c'est la tradition par le verbe coranique du jour. Imam Abdelali, quel est-il?
Alors aujourd'hui, c'est le verbe ta'assa. Ça qui signifie d'abord faire preuve de patience et d'attristement par rapport à un malheur que l'on a subi. Anata'assa bimauti fulan, par la mort de quelqu'un, etc. Mais il a une autre signification. Ata'assi, c'est aussi prendre pour exemple ou modèle et faire preuve de patience dans cette imitation à la lettre de ce modèle. Et en l'occurrence, là, il s'agit de ata'assi bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, de prendre pour exemple notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son radical, on le retrouve dans le Coran, c'est le mot uswa. Uswa qui signifie modèle, exemple, que l'on retrouve dans le verset 21 de Sourate Al-Ahzab, les coalisés, donc Sourate 33, où Dieu dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة. Regardez, donc je dis أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, hein, vous avez dans le messager d'Allah un exemple, un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour du jugement dernier et invoque Allah fréquemment. Donc on a le terme uswa qui est le radical du verbe ta'assa bi rasulillahi sallam. Donc le ta'assi et al-uswa est bien entendu quelque chose à prendre en compte et à essayer de mettre en pratique au quotidien. Et il a un synonyme, c'est l'expression qudwa, le mot qudwa qui lui aussi veut dire prendre. Al-Qudwa, c'est le modèle. Al-Qudwa, c'est le modèle. Celui qu'on suit, c'est le guide que l'on prend pour exemple et qui est notre référence. Et Al-Qudwatuna, hein, c'est en l'occurrence Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que on considère que son infaillibilité en tant que prophète fait de lui le personnage parfait, qui n'a commis jamais d'erreur. Et donc, on doit essayer de tendre vers l'imitation le plus possible. Voilà.
Peut-on imiter le prophète aujourd'hui dans tous les aspects de sa vie, sachant que le contexte n'a rien à voir avec le sien aujourd'hui?
Oui, c'est vrai que c'est compliqué de faire le distinguo entre ce qui relève des pratiques humaines, des pratiques traditionnelles, des pratiques naturelles. On appelle ça en arabe al-af'al al-jibilliya. C'est ce qui relève de la vie quotidienne. Et ça, bien entendu, ne fait pas partie de la sunna et de cette uswa et de cette modélisation, si on peut dire ça comme que l'on doit imiter. Hein, par exemple, le fait que le prophète il portait des izars, il se promenait dans la rue avec le izar indonésien, ça ne veut pas dire que nous en France ou dans certains pays qui ont d'autres coutumes, eh bien, ils doivent s'habiller de la même manière. Ou qu'ils mettaient un qamis blanc, on doit forcément mettre un qamis blanc et se promener dans la rue avec et aller au travail avec un qamis blanc. Ou porter un turban. Ça aussi, certains pensent que porter un turban, c'est une sunna. Je signale que les Quraysh, c'est-à-dire les Mekwas, les idolâtres, les pyrémies du prophète, portaient eux aussi ce turban et aussi cette barbe. Donc, ce qui va relever de la sunna, de la uswa, de cette modélisation, c'est quand il s'agit d'une parole que lui va nous dire d'accomplir ou de ne pas faire, c'est-à-dire une injonction. Hein, une prophète va dire « faites ci ou faites pas ça ». Là, on va parler de uswa, on va parler de modèle. Ou bien quand il va faire quelque chose qui relève de la pratique religieuse et des rites. Hein, le fait que le prophète il se promenait en chameau, ça fait pas partie, le monter sur un chameau, ça fait pas partie de la uswa de ce modèle, puisque le chameau était un moyen de transport adapté à la réalité du prophète dans le Sahara d'Arabie, et qui était donc l'animal le plus approprié. Il avait aussi même une mule. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que pour suivre la sunna du prophète, on va acheter une mule et avoir une écurie, ou est-ce qu'on va tous les soirs poser notre mule le soir? Ça n'a aucun sens. Voire même le siwak, qui est ce bâton que l'on met dans la bouche et que l'on retrouve chez pas mal de
ça revient beaucoup à la mode, hein, le siwak.
Ouais, effectivement, parce que bon, pourquoi? Parce que effectivement, là il y a un hadith qui fait l'éloge de cet objet. Mais est-ce qu'on peut pas faire une analogie en disant que finalement l'important et l'esprit de cet outil, c'est d'avoir une bouche saine et d'avoir la bouche propre, et que si j'utilise une brosse à dents et du dentifrice qui va faire le même travail, voire peut-être même un peu mieux, puisque le dentifrice est censé quand même donner une bonne haleine, faire un travail. Même, wow, ça se discute.
C'est la brosse qui fait le travail, Imam Abdelali.
La brosse, je suis d'accord avec toi. La brosse, le dentifrice, tout ça, c'est quelque chose de bien. À partir du moment, elle a pour objet de nettoyer et de promouvoir l'hygiène buccale. Et donc pour cela, c'est l'esprit de la révélation qui doit être pris en compte. Donc il est extrêmement difficile parfois de faire le distinguo entre ce qui relève des pratiques naturelles du prophète alayhi salatu wasalam et ce qui relève de la ouswa, c'est-à-dire de cette modélisation que l'on doit suivre à travers le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Bien entendu, il y a tout un ensemble de injonctions verbales qui fait l'objet de ouswa.
Alors, quelle est la différence, Imam Abdelali, entre ata'a et suivre ta'asa?
Ouais, donc le verbe ata'a, qui veut dire obéir, et suivre, qui est le verbe ta'assa. Donc, eh bien, ata'a, c'est effectivement quand il s'agit d'injonction verbale. J'obéis quand tu me donnes un ordre. Je vais pas obéir alors que tu me dis rien. Philippe, si tu me dis alors fais
là,
ça.
Je me mets au défi de vous donner un ordre et que vous obéissiez. Je suis sûr.
Alors ça dépend.
Je suis certain que suis ça désolé. Ne fonctionnera
moi,
pas,
Imam Abdelali. Moi, je suis et j'obéis au bon sens.
Voilà,
si ce que tu me dis c'est le bon sens, je le suis.
D'accord.
Pourquoi pas? Le bon sens, et voire même si c'est ce que tu dis est conforme avec ce qui a été révélé au prophète Mohammed, si tu me dis demain, Abdelali, c'est l'heure de la prière, va faire ta prière, je n'ai pas d'autre choix que de t'obéir, Philippe. Donc j'irai me lever faire ma prière avec plaisir. Donc ata'a, c'est obéir. Donc obéir, il faut une injonction, il faut un verbe, il faut une phrase, impératif dans lequel Allah dit faites ci ou ne faites pas ça. Donc il s'agit d'obéir. C'est un peu limité le verbe ata'a.
Mais est-ce que obéir c'est ordonner?
C'est pas forcément ordonner. C'est ça peut être parfois recommandé.
Ouais.
Ça peut être conseillé. Ça peut être encouragé à faire.
D'accord.
Donc effectivement, il y a des degrés de
dans l'injonction.
Dans l'injonction. Ouais. Pourquoi? C'est quoi la différence entre ces degrés-là? C'est simplement sur le degré de réaction d'Allah Azza wa Jal, de Dieu, par rapport au fait que l'on obéit ou pas. Par exemple, si Dieu, le prophète nous dit, par exemple, délaissez vos barbes, par exemple, je donne cet exemple-là, parce qu'effectivement, il y a un hadith qui a une vingtaine de chaînes rapporteuses, donc qui est authentique, qui dit que de délaisser la barbe. Mais on n'a aucun hadith qui parle de sanctions. C'est-à-dire, on n'a aucun hadith qui dit qu'attention, si vous délaissez pas vos barbes, vous allez subir tel et tel châtiment ou telle malédiction ou telle damnation. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun hadith qui va dans ce sens-là et qui est authentique. Donc à partir de là, beaucoup de savants ont déduit qu'il s'agissait d'une injection qui relève d'une recommandation, pas d'une obligation. D'autres, comme les Hanbalites, ont dit non, à partir du moment où le prophète a ordonné de le faire, on doit le faire, c'est une obligation. Et donc, sur la question, pas la peine de tergiverser, celui qui a envie de porter une barbe parce que le prophète a dit de le faire, ben il est dans la sunna, il est dans cette ouswa de suivre le prophète Mohammed, alayhi salatu wasalam, et bien entendu de la soigner, d'en prendre, parce que le prophète prenait soin de sa barbe. Il ne s'agit pas d'avoir une barbe comme une barbe délaissée qui est un petit peu dans le désordre. Et voilà, il s'agit de prendre soin, de la soigner, de la tailler s'il le faut, etc. D'avoir une belle barbe, d'avoir une apparence agréable. Et alors que pour ce qui est d'autres injonctions, eh bien, cela va relever d'un châtiment. Donc il va y avoir un châtiment en cas de le délaissement. Par exemple, quand il dit acquittez-vous de la zakat, acquittez-vous de la zakat, et que de l'autre côté il est dit dans le verset coranique que celui qui délaisse ne s'acquitte pas de la zakat, Allah Azza wa Jalla lui fera subir un châtiment dans l'enfer. Mmh. Eh bien, donc on comprend bien qu'il ne s'agit pas simplement d'une recommandation de fait de s'acquitter de la zakat, que c'est bien une obligation qui fait l'objet d'un châtiment en cas de négligence. Donc, il y a une distinction entre l'injonction obligatoire et bien sûr l'injonction recommandée et conseillée. Et donc, obéir, c'est obéir à ses propos. Ta'assi, le verbe ta'assa qui veut dire suivre, c'est prendre comme exemple sa vie, son comportement, son attitude, sa manière de vivre. Mais surtout dans les choses qui relèvent des noblesses de caractère, des vertus, des comportements. Par exemple, le fait que le prophète soit quelqu'un de généreux, qui parfois donnait jusqu'à qu'on lui arrache sa chemise qu'il a sur le corps. Mmh. Et il leur disait, mais je n'ai rien d'autre, vous avez tout pris, j'ai plus rien. Donc ça montre bien que le modèle du prophète était quelqu'un d'extrêmement généreux, qui est difficile d'atteindre un degré, bien sûr, équivalent, serait pratiquement impossible aujourd'hui pour le commun des mortels. Donc... bien entendu, ta'assi, le verbe ta'assa, c'est plus fort que le verbe obéir, puisque obéir, c'est simplement faire la liste des injonctions verbales,
oui,
et de les suivre, alors que ta'assi, c'est carrément, véritablement, être dans le quotidien du prophète et le prendre comme modèle dans sa vie quotidienne. Voilà la différence entre les deux. Dans le Coran, il est mentionné à maintes reprises l'importance de l'obéissance. Ya ayyuhalladhina amanu atti'u Allaha wa rasulahu wa la tatawallaw anhu wa antum tasma'un. Ô vous croyants, obéissez à Allah et à son prophète et ne vous détournez pas de lui alors que vous écoutez. Dans un autre verset, il dit: ô vous croyants, répondez à l'appel de Dieu et de son prophète quand il vous appelle à ce qui va vous redonner la vie. Wa alamu anna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi. Et sachez qu'Allah Azza wa Jalla est entre l'homme, l'individu et son cœur, et que c'est vers lui que vous allez rendre des comptes et vous retourner. Donc il y a une multitude de versets qui vont dans le sens d'obéir à Dieu. Il y a un hadith que j'aime beaucoup, et parce que le style du prophète est extrêmement miséricordieux dans ce hadith. Il dit dès le début, sachez que tous les humains iront au paradis. Il part sur la base que tous les humains, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, tous les gens de ma communauté. Quand on parle de la communauté, c'est la communauté des humains, pas la communauté des croyants. Ummatul da'wa laysat ummatul istijaba, ummatul ijaba. Donc il s'agit des humains. Il dit que tous les humains iront au paradis. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, sauf celui qui ne veut pas. Sauf celui qui ne veut pas, dit le prophète. C'est
donc
lui qui ne veut pas.
Croyant et non croyant, c'est tout le monde.
Tout le monde ira au paradis, dit le prophète, sauf celui qui ne veut pas. Alors on lui dit, mais ya Rasulallah, wa man ya'aba, et qui ne veut pas, ya Rasulallah? Qu'est-ce qu'il répond, le prophète? Il dit, man ata'ani dakhala al-jannah, celui qui m'obéit ira au paradis, et il veut donc aller au paradis. Wa man asani, celui qui me désobéit, faqad aba, aura refusé. Il dit pas que celui qui refuse ira en enfer. Il dit il aura refusé. Après, il laisse à Dieu la décision que s'il a désobéi au prophète, de le mettre ou de ne pas le mettre, ou de le châtier en enfer ou pas. Donc c'est vraiment là véritablement l'esprit de miséricorde. Le prophète refuse de dire il ira en enfer. Il refuse d'admettre qu'il y aura des humains qui vont aller en enfer, parce qu'il n'aime pas que des hommes souffrent et soient fassent l'objet d'une damnation ou d'une malédiction divine. Il veut pour tous et une finalité salvatrice, et que nous fassions tous l'objet d'une félicité et d'une réussite le jour de la résurrection.
Chaque samedi, vous évoquez un personnage, Imam Abdelali.
Oui, effectivement, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, nous allons aujourd'hui découvrir un grand personnage. C'est le plus grand des êtres humains que Dieu, le plus grand avec un grand G, c'est le plus grand dans le sens, bien sûr, il ne s'agit pas de grandeur de taille, parce qu'on a eu des hommes très grands dans l'humanité, des 2m72, je crois que c'est le record du monde. On parle en taille, de taille longue.
En hauteur.
En hauteur. Là, il s'agit de grandeur et de valeur. C'est le plus, parce qu'on va parachever cette année scolaire avec l'avènement du mois du Ramadan. Donc j'ai voulu vraiment que l'on termine ça avec en beauté, avec bien entendu le plus important des personnages qui n'est pas insolite, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Voilà, et nous parlerons d'éducation tout à l'heure, vous savez que c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, à travers un projet du complexe éducatif européen qui organise un gala de soutien. Donc ça c'est mardi prochain, on en parlera dans un instant. Et puis vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions à l'imam Abdelali Mamoun tout à l'heure au 01 53 48 3000. C'est vrai que le Ramadan approche. Profitez du standard pour poser vos questions en direct, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent sur Beurre FM.
L'imam Abdelali Mamoun est avec nous et Sofiane nous a rejoint. Bonjour Sofiane. Alors attendez, c'est vrai que la radio ça se fait avec des micros et que là on vous êtes fait souffler votre micro, Sofiane, bienvenue.
Par son propre fils. Hein.
Bonjour, merci.
Ah ouais.
Inch'Allah.
Bien, Sofiane, vous êtes responsable de l'association du complexe éducatif. On verra tout à l'heure de quoi il retourne, puisqu'on parlait d'éducation des enfants, mais ça tourne vraiment autour de c'est un projet novateur d'ailleurs, hein, sur l'éducation des enfants.
Non, complètement. C'est une responsabilité qu'on a, nous, avant tout, les parents. Donc, on a nos enfants qui sont précieux à nos yeux. Donc, on essaie vraiment de s'investir à fond pour qu'on puisse transmettre une éducation et un savoir afin qu'ils ont tous les outils et les compétences pour leur avenir.
Et vous, au contraire, ce qui est intéressant, c'est que vous vous intéressez aux dernières découvertes des neurosciences et de ce qu'elles nous apportent, justement, et pour les enfants et pour les parents.
Complètement. Après, voilà, justement, on a un nouveau pôle, un nouveau programme avec pas mal de surprises. J'aimerais garder un petit peu l'effet de surprise sur notre projet. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir donner des outils aux parents dans leur processus, dans le processus de leurs enfants et aussi les
processus
parents.
Processus d'éducation, vous voulez dire?
Tout à fait. Processus d'éducation. Parce qu'un enfant, il a un process d'évolution. Mmh. On n'a pas forcément la compréhension et les outils. Et le complexe éducatif a mis en place un programme qui est, pardonnez-moi l'expression, qui est assez lourd pour qu'on puisse vraiment aider la parentalité pour qu'ils puissent aider leurs enfants dans l'éducation.
Voilà, ça s'appelle le complexe éducatif européen. Vous organisez un gala mardi 8 mai.
C'est ça, jour férié, mardi 8 mai, le gala. C'est un gala avant tout de soutien pour notre projet. Et aussi pour découvrir et redécouvrir le projet associatif qu'on a mis en place depuis pas mal d'années dans le domaine de l'extrascolaire, l'accompagnement.
L'accompagnement des enfants. Hein.
Des enfants, mais pas que. Il y a aussi les adultes. Il y a aussi plusieurs pôles qui nous tiennent à cœur, comme le FLE, français et langue étrangère, pour les adultes qui n'ont pas forcément la chance de comprendre, de savoir lire et écrire le français. Donc on travaille beaucoup avec les adultes lorsque, par exemple, ça a été un projet fort de la municipalité de mettre en place ce projet-là, parce que pas mal d'adultes déposent leurs enfants à l'école. Et lorsqu'il y a des réunions parents-prof ou tous les documents administratifs, ils n'ont pas forcément les outils, les compétences de pouvoir rédiger, comprendre. Donc c'est souvent les enfants qui font l'interprétation. Et donc nous, on a mis en place vraiment le programme du français langue étrangère pour accompagner les parents dans une autonomie et à travers la langue française qui aujourd'hui nous tient à cœur.
Voilà, et ça c'est à Villiers-le-Bel, hein.
Tout à fait. Alors nous, on est basé à Garges-lès-Gonesse. Le gala est à Villiers-le-Bel et notre projet associatif dans l'extrascolaire, les formations professionnelles, pédagogiques sont vraiment partout dans toute l'Île-de-France. On a plusieurs pôles et en fonction de nos activités, on essaie vraiment de tendre la main à tout le monde et avec plusieurs partenaires.
D'accord. Vous adressez à des enfants à partir de quel âge?
À partir de la grande section pour les langues. Parce que c'est de manière ludique, pédagogique, afin de transmettre une langue, mais pas que, c'est surtout donner l'enfant le goût, l'envie, qu'il puisse aimer une langue étrangère à travers des jeux pédagogiques, à travers aussi les neurosciences, les 9 intelligences à l'occurrence, pour pouvoir donner l'enfant sa porte d'ouverture. Enfin, ça, c'est des exemples, on en a tellement. Il y a des enfants qui ont une compréhension qui est plutôt auditif, d'autres plutôt cursif, d'autres plutôt émotionnel. Donc on essaie vraiment de toucher l'enfant, le débloquer, le donner le goût d'aimer une langue vivante à travers sa porte intellectuelle. Et au fur et à mesure, on lui explique qu'il y a différentes portes, différentes ouvertures, et on essaie de l'accompagner dans sa scolarité.
Et c'est bien de les apprendre tôt, les langues, parce qu'après, quand il faut s'y mettre, c'est une autre paire de manches. Hein.
C'est ça. Déjà, leur faire le goût, donner envie d'aimer la langue, et c'est ce qu'on met en place aujourd'hui avec le complexe éducatif.
Et c'est sûr qu'un enfant, il peut apprendre n'importe quelle langue, même plusieurs langues. Il a une capacité de mémorisation qui est extraordinaire. Il ne faut pas sous-estimer la capacité des enfants. Et il ne faut pas croire que tout ça va se mélanger dans sa tête.
On a longtemps cru ça. La différence. En fait, on a longtemps cru que le fait de parler plusieurs langues à un enfant, ça faisait un mélange dans sa tête, alors que non.
Il sait faire le distinguo, non, ouais, effectivement.
Il arrive à
déjà, distinguer. Moi, quand j'étais petit, j'ai appris l'arabe et je savais bien faire la différence entre parler l'arabe. Ça ne se mélangeait pas dans ma tête, quoi. C'est ça, quoi. Et non, puis,
vous parlez combien de langues, imam?
Ouf, non, pas grand chose, je te rassure. Je suis pas polyglotte.
Do you speak English?
Little, my friend. My brother.
Sinon, vous pouvez aller, il y a un programme, pour les grands comme vous.
Il y a aussi l'indonésien, Philippe, toi, tu maîtrises bien, là.
Ah, ben, moi, je prends des cours d'indonésien, deux fois par semaine, à l'ambassade d'Indonésie.
Alors, comment on dit, bonne fête de bon ramadan à tous? Non, enfin, ça, bon ramadan.
Bon ramadan, c'est pareil. C'est un mois, ramadan.
Ramadan, c'est vrai que c'est dans la même langue partout.
C'est la mat.
Bonne journée.
Là, à 10h26, c'est la mat Pagui.
Salamat Pagui.
Voilà.
Salamat Pagui à tout le monde.
Non, c'est pas ça, mais c'est que quand on arrive à...
Il faut pagayer à ce moment-là.
Alors, on pagaye beaucoup. et quand on apprend une langue, on rame. À partir d'un certain âge, on rame.
Il faut ramer, c'est
parce
sûr.
Parce que
l'Indonésie, on doit ramer, c'est sûr. ça se fait pas, imam.
Tiens. Allez, imam Abdelali, racontez-nous une histoire insolite du prophète.
Eh bien, effectivement, on était dans ce format que l'on va respecter, Inch'Allah. Un jour, Aïcha, c'est Aïcha, donc son épouse, radiyallahu ta'ala anha, qui nous raconte que, alors que c'était son tour, donc une de ses soirées, où est-ce qu'il devait dormir avec elle le soir, il s'est allongé à côté d'elle, et pensant qu'elle s'était endormie, il s'est relevé, il a mis ses chaussures et il est parti. Elle a senti qu'il était parti, donc elle aussi, elle s'est habillée, elle s'est couverte complètement, emmitouflée dans des vêtements noirs, et elle l'a suivi discrètement pour voir où il allait. Elle, pensant qu'il allait rejoindre une autre épouse, parce que Aïcha, elle était jalouse. Elle voulait, quand c'était ça, son tour à elle, elle voulait pas que le prophète allait voir ailleurs. Donc, elle a cru qu'il était parti voir quelqu'un d'autre, une de ses autres épouses. Donc, elle l'a suivi. Mais le prophète n'est pas parti chez l'une de ses épouses, il s'est dirigé vers le Baqiyah. Le Baqiyah qui se trouve environ à 200 mètres de la demeure du prophète, alayhi salam. Il est arrivé là-bas. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, entre la tombe du prophète et le Baqiyah, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est une esplanade de la mosquée du prophète, alayhi salam. Alors qu'avant, c'était plein de maisons. La maison des compagnons qui se trouvait. Il y avait des ruelles qui séparaient donc la maison du prophète, donc la mosquée du prophète, alayhi salam, et le Baqiyah, qui est le cimetière des compagnons. Le cimetière des musulmans qui mouraient à Médine. Donc, il est parti là-bas. En arrivant là-bas, il a levé les mains à trois reprises. D'abord, il est resté longtemps. Il a levé les mains trois fois. Il a fait des invocations. Et ensuite, il s'est retiré. Il a commencé à marcher, à accélérer jusqu'à courir. Et elle, Aïcha, qui l'avait suivi, elle était obligée de courir encore plus vite que lui. Et finalement, elle est rentrée plus vite que lui pour ne pas le laisser soupçonner qu'elle l'a suivi discrètement. Donc, elle s'est allongée en faisant semblant que... ni vu ni connu, il s'est rien passé. Alors que le prophète, il l'a vu essoufflé, en train de respirer fort, parce qu'elle a été obligée de courir, elle aussi, encore plus vite que lui. Donc il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, non, rien. Il a dit, si, tu vas m'informer, ou sinon c'est Dieu qui le fera à ta place. Et donc elle lui dit, Rasulallah, je t'ai suivi, effectivement. Et il lui a dit, il l'a pris par la poitrine, il l'a secoué un peu fort. Elle dit même qu'elle a senti une petite douleur. Et il lui a dit, mais pourquoi tu fais cela? Je pensais que tu étais endormi. Je ne voulais pas te faire penser que j'étais absent, c'est-à-dire que je te manque. Donc j'ai fait ça discrètement et toi tu m'as suivi discrètement. Donc et finalement il raconte que c'est parce que Jibril lui a dit lève-toi car Dieu te demande d'aller faire des prières pour les morts qui sont dans le Baqiyah, c'est-à-dire dans le cimetière des compagnons. Et donc je me suis levé, j'ai suivi Jibril et elle, toi tu m'as suivi, donc elle l'a suivi derrière lui discrètement. Et il lui a dit, est-ce que c'est toi l'ombre, la silhouette que j'ai vue en noir, qui est rentrée chez moi avant que j'arrive? Il a dit, oui, c'est bien moi, j'ai essayé de faire la plus discrète possible, mais tu m'as vu. Et donc le prophète a dit que je suis arrivé à Al-Baqiyah, j'ai levé mes mains, j'ai fait des invocations. Et là lui dit, ya Rasulallah, mais que doit-on dire quand on est dans le Baqiyah, quand on est dans un cimetière en général? Et le prophète lui a dit, il faut dire, Assalamu ala ahli diyar, que la paix soit sur les gens qui sont dans ces demeures, la dernière demeure, min al mu'minin wal muslimin, parmi les croyants et les musulmans, wa yarhamullahu al mustaqdimin minna, et que Dieu comble de sa miséricorde ceux qui nous ont précédés, wal mustakhirin, ainsi que ceux qui vont bientôt les rejoindre, wa inna insha'allahu bikum lahiqun, et insha'allah, si Dieu le veut bien, nous allons bientôt vous rejoindre. Voilà ce que le prophète a dit et a enseigné à Aïcha de dire quand elle rentre dans un cimetière. Et à travers son enseignement, c'est pour nous tous un devoir déjà de prendre, de donner d'importance à rendre visite aux tombes, car elles nous rappellent le jour du jugement dernier, et de ne pas oublier nos morts, nos ancêtres, ceux qui sont morts avant nous, de faire des prières pour eux, notamment nos parents. Ça, c'est une manière de faire de des invoca de une manière de faire de la bonté pieuse qu'on appelle birr al-walidain, que de rendre visite à nos parents dans le cimetière et de faire des prières pour eux et nous enseigner comment le faire en disant cette invocation assalamu ala ahli ad-diyar min al-mu'minin wal muslimin wa yarhamu Allahu al-mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insha Allah bikum lahiqun. Voilà, donc voilà une petite histoire anecdotique que le prophète a vécu dans son quotidien, dans sa famille, avec sa femme, sans oublier la dimension spirituelle qu'il avait même la nuit quand il était avec en compagnie. Alors pourquoi il a été discret, c'est important de le préciser. C'est parce que Jibril, en principe, il ne rentrait jamais dans la couche, donc c'est-à-dire dans la chambre privée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était avec sa femme. Et là, exceptionnellement, parce que Jibril a constaté qu'il n'y avait eu aucun rapport et que Aïcha était bien habillée. Et sachez que les anges ne rentrent jamais dans les demeures où vous êtes dénudé, quand on est dénudé, parce que les anges ont de la honte, ont de la pudeur. Et le prophète dit dans un hadith, inna al-malaika la tastahi mimma yastahi minhu ibn Adam. Les anges ont de la pudeur équivalente à celle que les fils d'Adam ressentent. Donc il ne rentrait jamais quand le prophète étant dans un rapport intime avec sa femme, il partait, il quittait, il ne s'incrustait pas, il n'avait pas ce regard vicieux pour regarder ce qui se passait dans la demeure. Mais là, voyant que Aïcha était endormie, il s'est permis de venir lui rendre visite et lui dire viens avec moi, on va aller prier pour les gens de l'Baqi', c'est-à-dire pour les défunts qui sont dans leur tombe. Voilà cette petite anecdote que je voulais rappeler pour montrer combien le prophète sallam était miséricordieux envers sa communauté et soucieux qu'Allah Azza wa Jal les comble de sa miséricorde même après leur mort, de la même manière qu'il est soucieux que pendant leur vie, il soit pour eux le meilleur des exemples et de ce fait, obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et son agrément. Sallallahu alayhi wa sallam.
Le standard est à votre disposition à quelques jours du début du mois de Ramadan. 01 53 48 3000 si vous avez une question pour l'imam Abdelali Mamoun. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent sur Beurre FM. Oui.
Avec l'imam Abdelali Mamoun et Sofiane, qui est le responsable de l'association Complexe Éducatif Européen, vous organisez mardi un gala de soutien à cette association pour présenter ce que vous faites et puis pour récolter de l'argent pour vous développer également, pour mener à bien toutes vos actions, Sofiane.
Tout à fait, voilà. Ce gala, il est vraiment soutenu, il a été organisé vraiment par nos bénévoles, nos adhérents, nos familles noyaux, parce que vraiment, on est vraiment soutenu par nos familles qui portent ce projet à cœur. Faut savoir que le domaine associatif, c'est vraiment un projet commun. Donc, tous nos adhérents nous soutiennent derrière le complexe éducatif. Donc, le gala du 8 mai, c'est pour nous soutenir, découvrir notre projet, mais aussi sensibiliser les parents dans le domaine de l'extrascolaire.
Alors, d'accord, vous avez précisé toutes ces activités, mais elles sont où? On me pose la question.
Alors, elles sont Sofiane. Où? Alors, nous, notre siège social est situé à Garges-lès-Gonesse. Donc, on se développe dans la région du 95. On est à Goussainville, Ville-le-Bel, Pierrefitte, Saint-Denis. On a développé le poste bac, donc préparation des médecines, prépa concours médecine sur Paris pour l'année prochaine. Donc on est en Île-de-France partout.
Là, c'est pour les grands déjà.
Ça, c'est pour les grands, ouais. Effectivement.
C'est-à-dire les lycéens. Donc ils vont.
Les lycéens, post-bac, ceux qui préparent.
Qui ont obtenu leur bac. Bac S.
Exactement. Donc ceux qui ont obtenu leur bac S ou L en fonction.
C'est vrai que Rénovo, eux, travaillent beaucoup plus dans le sud de Paris, puisqu'ils sont à Arcueil, donc Cachan, tout ça. Vous êtes dans le nord. Donc vous êtes un petit peu dans. Vous occupez un secteur géographique de cette jeunesse issue de l'immigration qui. Avec laquelle vous essayez d'utiliser le potentiel finalement, le potentiel et les talents qu'il peut y avoir chez chacun d'entre eux.
C'est ça, complètement, effectivement. Donc on est vraiment dans ce domaine-là. On a juste rajouté une particularité parce qu'on a fait un constat depuis pas mal d'années. Le constat, c'est le problème de parentalité. On est vraiment sensible sur ce sujet-là parce qu'il y a pas mal d'élèves qui ont des compétences pour réussir leur réussite scolaire. Comme je vous le disais, on nous prépare, entre guillemets, nous toute la vie, on nous prépare pour avoir un métier. Donc de la petite enfance, au primaire, collège, lycée, dans des spécialités. Mais on nous prépare pas forcément à être parents. On nous prépare pas forcément à vivre une vie conjugale.
C'est sur le tas ça que ça s'apprend. Hein,
alors nous justement, on a appuyé l'accent pour qu'on puisse accompagner nos enfants dans la scolarité. Mais si dans le foyer il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des outils qu'on comprend pas, on peut pas avoir une réussite scolaire complète. Et là nous, nos familles nous ont soutenus dans ce projet là. Dans l'accompagnement de leurs enfants, mais pas que. On accompagne aussi les parents dans ce qu'on appelle un coaching, un accompagnement vraiment, vraiment scientifique avant tout. Voilà, on est sur un programme qui est chargé pour l'année prochaine. On n'aimerait pas tout révéler. C'est pour ça que le gala du 8 mai au complexe éducatif à Villiers-le-Bel, on va pouvoir exposer le process de cet accompagnement pour vraiment la réussite scolaire de nos enfants, que ce soit des matières scientifiques, littéraires, culturelles, artistiques. Voilà, on travaille vraiment, vraiment en comité restreint pour tirer le maximum de nos enfants.
Alors, comment s'appelle votre organisme ?
Alors, c'est le complexe éducatif européen.
Complexe éducatif européen.
Tout à fait.
Donc il est à Garges-lès-Gonesse.
Alors le siège social est à Garges-lès-Gonesse. Nos activités sont en Île-de-France. Le site internet, complexe-educatif.com. Et on a aussi un numéro de téléphone.
D'accord, vas-y. Alors les gens prennent leur stylo, prenez vos stylos, ceux qui sont intéressés. Donc, et finalement, vous demandez de l'aide financière, une aide financière pour pouvoir financer ce projet.
Alors ce projet, il est soutenu par nos familles, par des donateurs. Nous, ça fait longtemps qu'on travaille. On est aussi, on propose aussi tout ce qui est sortie culturelle, pédagogique. Donc ce gala, c'est surtout pour présenter notre projet et vous annoncer une excellente nouvelle par rapport au domaine de la neuroscience et neuropédagogique. Mmh. Ça, c'est le premier point.
Une excellente nouvelle.
C'est une excellente nouvelle parce que c'est quelque chose qu'on n'aimerait pas garder
c'est
pour
du
nous.
Teasing que tu nous fais là.
Non, complètement. On va lancer un programme. On aimerait que tout le monde puisse en profiter et partager.
Oui, alors moi c'est quand même ma question. Parce que aujourd'hui, quand on parle d'accompagnement des enfants, ça concerne combien d'enfants ? Parce qu'on a vu beaucoup de projets qu'on a accompagnés avec Imam Abdelali depuis des années. Mais au final, si ça concerne 25, 30 ou 40 enfants, j'ai envie de vous dire.
Moi, je crois que c'est beaucoup plus là. Combien on est là hein ?
Alors nous, notre association, on est à 1400 élèves.
Mashallah.
Toute matière, tout niveau.
Donc 1400 élèves qui bénéficient de soutien scolaire ou d'accompagnement.
C'est ça. Soutien c'est scolaire ça, bon. Dans les langues vivantes, dans le soutien scolaire pur et dur, français et maths. On est vraiment dans des mini-groupes hein, de 5 élèves dans un accompagnement de maths physique avec un suivi individuel et personnalisé. On est dans des...
Ça veut dire que ces enfants à qui on propose un accompagnement personnalisé, c'est gratuit pour eux ?
Alors, il y a plusieurs formules, effectivement. Nous, on est vraiment dans... C'est pour ça qu'on est une association, c'est pour ça que j'insiste sur le projet commun. Effectivement, on est vraiment... On tend la main à des personnes qui sont en difficulté. On a plusieurs formules, plusieurs partenaires qui aident ces personnes. On a l'agrément pour du soutien scolaire individuel, pour les aides revenus fiscales, et on aide des familles. Et
moi, vous n'avez pas de soutien de ce qu'on appelle des collectivités ?
Non, aujourd'hui, on a
municipal, régional, départemental.
Ce soutien-là, voilà, c'est vrai qu'on est une structure assez jeune, mais assez forte et dynamique. Mais on n'a pas encore déployé ce soutien-là financier. Donc on commence, mais c'est vrai que nous aujourd'hui c'est une fierté de dire on a lancé la prépa médecine et aujourd'hui on est assez fiers d'accompagner ces enfants où malgré effectivement c'est au niveau des ressources financières c'est très difficile, mais on les aide, on les accompagne et on prend en charge leur scolarité.
Alors, vous avez donc finalement des infrastructures dans ces différentes villes où vous accomplissez toutes ces accompagnements, ces soutiens scolaires?
Tout à fait, on a des infrastructures, des locaux, mais on a aussi nos familles qui nous soutiennent, qui portent le projet, donc c'est du soutien scolaire à domicile. Donc les personnes créent un groupe d'élèves
qui viennent à la maison
qu'ils puissent bénéficier du cours de maths par exemple. Et donc, ils ont créé eux-mêmes un groupe d'élèves. Et nous, voilà, on insiste vraiment sur le domaine, en plus, sur le sujet du fisabilillah. On est là vraiment pour aider les gens. Il y a des personnes qui peuvent payer, et des personnes qui peuvent pas payer. Et nous, on délaisse personne. Et même si, peu importe le niveau, la matière, la difficulté, les familles, on est vraiment là pour tendre la main et aider.
D'accord, machallah. Et comment on peut aider? Donc, ceux qui nous écoutent et aimeraient soutenir votre projet, comment ils peuvent faire?
Alors,
est-ce qu'il y a une adresse postale où on peut envoyer un chèque, par exemple?
Alors, complètement. Déjà, le 8 mai, le gala, c'est super important car il y aura pas mal de choses de présentation. Après, il y a le numéro de téléphone, comme je vous le disais tout à l'heure au niveau du site internet, donc www.complexe-educatif.com. et vous pouvez nous contacter au 01 39 93 24 48.
Attention, c'est trop vite là, tu faut y aller lentement.
Ouais, 01 39 93 24 48.
Machallah.
Ou bien au 06 36 92 83 82. Le soir du gala, il y aura le chef voilà qui participera, qui nous soutient aussi sur ce gala, qui soutient le projet du complexe éducatif avec une animation culinaire et pas mal de d'activités d'animation
gastronomique.
Oh ben
voilà,
j'en dis
pas plus.
Le chef,
que vous allez remplir la tête ou bien le ventre de...
Les deux. C'est vraiment c'est une soirée conviviale. Machin. Et vraiment, là, on partage un moment tous ensemble, une soirée top, 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 géniale.
Machin. Bon, Imam Abdelali, j'aimerais qu'on comprenne, là, pour le début du mois du Ramadan. Ça avait l'air simple cette année. Et ça sera peut-être moins simple que prévu.
Oui, en effet, puisque la lune va naître, donc, le, 15. Le 15
donc
au
c'est
soir.
C'est le mardi 15.
Le 15, non, à exactement 11h47, je crois, heure de Greenwich, donc l'heure universelle, qui fait donc 14h45 à l'heure de la Mecque. Le soir même, donc le soir du 15, la lune ne sera pas visible autour du bassin méditerranéen.
Donc le soir du 15, c'est la nuit du doute.
C'est la nuit du doute.
D'accord.
Le 15, on parle du mardi 15 mai.
Oui.
15 mai. Donc ce soir-là, seuls certains endroits dans le monde, tels que l'Amérique du Sud, la lune sera visible. Sur la base de cette possibilité d'être vue, là-bas en Amérique du Sud, le Conseil européen de la Fatwa, qui a été suivi par Dar al-Fatwa ici à Paris et en Allemagne, ont décrété que le Ramadan devrait débuter le 16, c'est-à-dire le mercredi 16 mai. Pour d'autres, disent non, il faudra attendre de voir si le croissant va être visible dans le bassin méditerranéen. Est-ce qu'elle va être vue de manière oculaire, c'est-à-dire à l'œil nu. Si oui, ben on commence le jeûne. Sinon, non, ben on jeûnera pas avant le jeudi 17, donc avant le lendemain. Donc, il n'est pas dit que le lendemain du 15, eh bien, on débute le mois du Ramadan. D'où la Il y aura cette année encore peut-être un peu de bazar, un peu de zizanie au sein de la composante musulmane, surtout si l'Arabie Saoudite décrète que le lendemain, le 16, n'est pas un jour de jeûne et que de l'autre côté, le Conseil européen de la Fatwa décrète que le 16 est le premier jour du Ramadan.
Ceci dit, le Conseil européen de la Fatwa a décrété avant,
oui.
L'Arabie Saoudite attend.
Attend le jour même.
Voilà, donc voilà.
Parce que l'Arabie Saoudite a toujours respecté la règle qui est la vision oculaire. Et donc, elle considère que le jour du doute est toujours un jour du doute. Alors que pour le Conseil européen de la Fatwa, le doute ne subsiste plus. Il n'y a plus de doute le lendemain du 15, c'est-à-dire le 16, et le premier jour du Ramadan. Elle l'a déjà décrété. Mmh. Donc, mercredi 16, pour le Conseil européen de la Fatwa, c'est le Ramadan.
Mais, en France, nous, on suit l'avis du CFCM.
Le Conseil français du culte musulman, qui se réunira, Inch'Allah, ce mardi 15. Mais à la mosquée de Paris, entouré des imams, donc Dalil Boubacar entouré par des imams, se consulteront et décréteront si oui ou non, le lendemain 16, le mercredi 16, c'est le début du Ramadan, ou est-ce qu'il faudra attendre le lendemain, le jeudi 17, pour commencer le Ramadan, selon ce qui sera décidé un petit peu par les pays musulmans autour du bassin méditerranéen. Je ne sais pas ce qui se passe en Extrême-Orient, tu as des nouvelles toi en Indonésie, qu'est-ce qui se passe là-bas ?
On attendra.
Il y a rien qui a été dit pour l'instant.
Hein?
Qu'est-ce qui a été dit?
Non, pour l'instant, on attend.
Oui, bon, en tout cas, le doute pour moi, il doit rester, puisque le prophète a dit, man sama yawm shakki faqad asa Aba al-Qasim. Celui qui jeûne le jour du doute, alors qu'il y a doute, il aura désobéi au prophète. Donc, on n'a pas le droit de jeûner quand il y a un doute. Tant qu'il y a un doute, on peut pas jeûner. Il faut qu'on ait la certitude que le Ramadan, la lune a bien été vue à l'œil nu, par un homme de confession musulmane, hein, comme ça s'est passé à l'époque du prophète, où un homme est venu voir le prophète, lui dit, alors que le prophète ne le connaissait pas, et il lui a dit, j'ai vu la lune, j'ai vu le croissant de lune, et il lui a dit, hal tashhadu anni rasulullah, es-tu témoin que je suis l'envoyé de Dieu? Et cet homme a dit, oui, ya rasulullah, je témoigne que tu es le prophète de Dieu, et là, le prophète a ordonné tous les musulmans de débuter le mois du Ramadan.
Alors, on a Sonia de Saint-Étienne, au 01 53 48 3000, bienvenue Sonia.
Oui, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Marhaban.
Merci. J'appelle en fait, j'ai deux questions très rapides. L'une concernant en fait la prière. Voilà, j'ai beaucoup de mal à prier à l'heure dans le sens où je travaille la journée. Donc je rattrape mes prières le soir. Et j'ai en fait découvert il y a peu de temps qu'il y avait une espèce de salle de bain sur mon lieu de travail. Donc, j'aimerais savoir s'il est possible de prier.
Est-ce qu'il y a des toilettes à l'intérieur?
Non, c'est uniquement une douche.
Une douche?
Oui.
Est-ce qu'elle est utilisée ou c'est juste
un... Elle est utilisée, oui, tout à fait.
Bon. Écoutez, la majorité des savants considèrent qu'il est déconseillé de prier. J'ai dit bien déconseillé, pas interdit. Alors que dans des toilettes, c'est strictement interdit de prier. On peut pas prier dans là où des toilettes. Mais le hammam, comme on appelle le hammam, hein, c'est la salle de bain, il est makro, c'est-à-dire déconseillé de prier. Mais entre être déconseillé de prier dans un endroit qui est déconseillé ou ne pas prier du tout, eh ben je préfère autant prier dans un endroit où c'est déconseillé que de ne pas prier du tout, qui est déjà une faute grave. Donc, si vous pouvez prier dans cette salle de bain avec un tapis de prière et bien sûr dans des conditions d'hygiène confortables, faites-le, il n'y a pas de problème, je ne vois pas d'inconvénient.
D'accord. Si c'est possible. La seconde question, c'est concernant le jeûne surérogatoire. J'aimerais savoir s'il est permis de jeûner maintenant, donc la moitié du mois de Charban jusqu'au Ramadan, ou si c'était déconseillé.
Il y a un hadith qui dit qu'on ne doit pas jeûner la deuxième quinzaine du mois du Ramadan. Mais il y a une autre dérogation.
Du mois de Ramadan?
Du mois de Charban, autant pour moi. On parle de la deuxième quinzaine du mois de Charban. Il est déconseillé de jeûner la deuxième quinzaine du mois de Charban. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Et par contre, celui qui a l'habitude de jeûner tout au long de l'année, le lundi et le jeudi par exemple, ne doit pas arrêter son jeûne le lundi et le jeudi, même si c'est la deuxième quinzaine de Chaban. Donc il continue ce qu'il a l'habitude de faire tout au long de l'année. Par contre, s'il jeûne occasionnellement dans l'année et qu'il a envie de jeûner la deuxième quinzaine de Chaban, on lui dit non. On lui dit stop, non. Il faut garder une hurma, c'est-à-dire une sacralité à ce mois pour le distinguer, le démarquer des autres jour de l'année et débuter le Ramadan sur la base de jours précédents non jeûnés.
Mais le prophète jeûnait beaucoup pendant le mois de Shaban.
Il jeûnait beaucoup, mais...
Pourquoi est-ce que c'est déconseillé aux autres gens de jeûner dans la deuxième quinzaine?
Parce que lui jeûnait toute l'année, c'était un jeûneur, il jeûnait. J'ai dit qu'à partir du moment où quelqu'un a l'habitude de jeûner, moi je connais des gens qui jeûnent un jour sur deux. Ils font toute l'année comme Seyyidina Daoud le faisait. Le prophète dit que c'est le meilleur des jeûnes, c'est celui de Daoud, du prophète David, qui jeûnait un jour sur deux. Celui qui jeûne un jour sur deux, eh bien, même la deuxième quinzaine de Chaban, il peut continuer à jeûner un jour sur deux. Même jusqu'à la fin du mois de Chaban. Un jour sur deux, il jeûne. Par contre, ce qui est interdit, c'est de jeûner le jour du doute. S'il y a doute, on ne jeûne pas. On marque le coup, on démarque ce qui est avant le Ramadan et le début du mois du Ramadan. Wallahu a'lam.
Bien, alors il y a eu beaucoup de questions, mais on est très en retard aujourd'hui. Imam Delali, donnez votre numéro de téléphone pour tous ceux qui pourront
vous appeler. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de connaître les réponses à des questions qui relèvent du Ramadan, parce que c'est bientôt le Ramadan. La semaine prochaine, on va consacrer, si vous le voulez bien, Philippe, une journée entièrement à des questions-réponses. Soyez au rendez-vous de la semaine prochaine, de 10h à 11h, que des questions-réponses. Dès le début, si vous êtes avec nous, on va pouvoir répondre à vos questions. Donc, le 06 29 25 35 00. Vous pouvez m'appeler donc à ce numéro pour me poser toutes vos questions, le 06 29 25 35 00. C'est aussi le numéro pour s'inscrire pour le pèlerinage cette année, Inch'Allah. On aura un pèlerinage qui sera, Inch'Allah, j'espère, magnifique, très, très, très spirituel. Donc, ceux qui souhaitent le vivre avec moi intensément et s'enrichir spirituellement comme d'un point de vue culturel et connaître un peu mieux le berceau de l'islam qui est la Mecque et Médine, eh bien, vous m'appelez au 06 29 25 35 00. Le Hajj, ça commencera le 15 août jusqu'au 7 septembre. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa barakallahu fikum, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Merci Sofiane de l'association Le Complexe Éducatif Européen d'avoir été avec nous. On reparlera d'éducation pendant le mois du Ramadan.
Merci à vous.
Et dans un instant, Maître Serhan répond à vos questions pour C'est tout droit.
C'était l'islam au présent. Avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.